Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
L'impact de l'intelligence artificielle dans le recrutement. Si, si, c'est une réalité. De plus en plus d'entreprises s'emparent de l'intelligence artificielle, IA, pour faciliter leur processus de recrutement, selon une étude menée par LinkedIn. 61% des professionnels RH dans le monde déclarent que leur entreprise a déjà commencé à déployer des formations dédiées à l'IA. Et 61% affirment déjà l'utiliser dans leurs tâches quotidiennes. Mais en quoi cette technologie peut-elle aider les recruteurs? Ne va-t-elle pas finir par les remplacer? Et surtout, quels sont les risques de son utilisation en recrutement? L'IA transforme les méthodes traditionnelles de recrutement et offre des solutions révolutionnaires pour les professionnels des ressources humaines. Mais la rédaction d'une annonce peut prendre plusieurs heures et comprend au minimum une description de l'entreprise ou de l'organisation, une description du poste, une description de la culture interne, une liste de compétences requises, une liste des qualités attendues et enfin le déroulé du processus de recrutement. Certaines solutions basées sur l'IA comme ChatGPT permettent de faire tout cela en seulement quelques minutes. Avec LinkedIn Recruiter 2024, les recruteurs peuvent par exemple obtenir une présélection de candidats. D'après une étude de Checkster, 78% des candidats mentent sur leur CV. Oui, vous avez bien entendu, près de 8 candidats sur 10. Pour évaluer correctement les talents, les recruteurs sont donc de plus en plus nombreux à vérifier rigoureusement les diplômes, les expériences professionnelles ou encore le casier judiciaire des candidats. L'IA permet aujourd'hui d'automatiser ce processus en fournissant aux recruteurs un moyen efficace de garantir l'exactitude des informations fournies par les candidats grâce à l'exploitation de certaines bases de données. L'IA va-t-elle remplacer les recruteurs? Finira-t-on par être sélectionné par des robots? A priori, non. L'IA n'est pas pertinente à toutes les étapes du processus de recrutement. L'IA n'est pas une solution miracle. Mal utilisée, l'IA risque même de réduire les capacités d'analyse et la qualité du processus de recrutement. Le clonage de profils est pourtant déjà une problématique que certaines entreprises cherchent à éliminer. Elles veulent donc au contraire aller vers davantage de diversité. Je ne suis pas un numéro.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur Calade.
Calade. Ma radio.
Porteur d'une sclérose en plaques depuis plus de 14 ans, Philippe Lambert se met au défi de parcourir à vélo 1070 km en 11 jours. Son objectif est de promouvoir l'activité physique pour les personnes atteintes de sclérose en plaques et faire connaître cette maladie. Il a fait étape à Villefranche-sur-Saulle le 23 avril dernier. Sur un 115 km, Philippe Lambert est arrivé sur le parvis de l'hôtel de ville de Villefranche dans l'après-midi. Il était accompagné de jeunes cyclistes, membres du vélo-club Villefranche-Beaujolais.
Léni et Clément. Oui, faire un tour avec un monsieur qui voulait représenter une maladie.
La sclérose en plaques.
Bah, de rouler avec lui, de l'accompagner un petit peu sur sa route.
Où est-ce que vous êtes donné rendez-vous?
Vers Guérin.
Ouais.
Non, sur le côté de la route, il nous attendait. Pour le rejoindre, on a fait 15 km à peu près de Glaizé.
Bah oui, c'était bien. Ouais.
Oui. Oui, c'était très bien.
Les proches aidants sont une source de soutien primordial, ainsi que les associations sportives de l'handicap.
Ben oui, mon épouse est atteinte de la sclérose en plaques depuis plus de 30 ans. Et j'avais créé en 2004 à Villefranche un groupe de parole où nous réunissions une vingtaine de personnes, entre les malades et leurs conjoints éventuellement. Et nous réunissions 5 fois par an. Malheureusement, avec le Covid, tout est tombé un petit peu à l'eau parce que ça devenait très compliqué pour ceux qui étaient malades. Et puis on a eu des disparus, ne serait-ce que la présidente de l'association qui est décédée, un membre qui était secrétaire aussi disparu. Mais c'était lié à la sclérose en plaques. Mais avec mon épouse, c'était un grand, grand moment parce qu'actuellement, elle va du fauteuil roulant au lit médicalisé, c'est-à-dire qu'elle ne met plus les pieds par terre, elle ne tient plus debout.
Et vous êtes, bien sûr, aidant, c'est une lourde charge.
Oh oui, c'est une bonne charge, surtout quand on arrive à plus de 80 ans. Quand on est jeune encore, on se dit qu'on va y arriver, mais quand on a 80 ans, on se rend compte des problèmes que ça présente et c'est pas simple du tout tous les jours.
Alors, Monsieur Lambert nous disait que le sport est une belle façon, effectivement, non seulement de promouvoir évidemment cette maladie plutôt mal connue, mais aussi d'avoir le moral. C'est un petit peu ça, toujours avoir le moral.
Oui, toujours. C'est le gros problème de la maladie, parce que quand le moral n'y est plus, c'est ce qui arrive à mon épouse maintenant. Mais il y a 25 ans, mon épouse était rentrée en handisport. sport, pour faire de la natation encadrée, donc pour pouvoir nager en toute sécurité. Et elle a fait beaucoup de stages à la piscine de Villefranche. Et ben, ça lui a fait du bien, mais la maladie est là, et quand elle, l'âge avance aussi, ça n'arrange rien. Monsieur Ravassard. François de son prénom est ancien président de l'Office culturel de Villefranche et ancien président du groupe folklorique des cadets du Beaujolais.
Handisport Villefranche, oui.
Okay, Nathalie Pont.
Le sport est important. Il participe effectivement, je dirais, à la fois moralement et socialement à maintenir des liens. Et c'est vrai que bah, physiquement, c'est toujours important de garder une activité physique, quelle qu'elle soit, même si c'est très, très à la marge. Et puis la piscine, en l'occurrence, c'est effectivement un très bon sport, ou en tous les cas, un très bon moyen de se détendre, même si on ne peut pas forcément beaucoup nager. Au moins faire des mouvements dans l'eau et on va dire effectivement profiter de ce milieu. On a besoin effectivement de moniteurs aussi formés, de maîtres nageurs. Alors c'est vrai qu'on n'a plus que la section natation qui fonctionne sur Villefranche directement avec Handisport, et sinon on a des partenariats avec d'autres clubs de sport comme le tennis de table ou le vélo club aussi pour effectivement accueillir des personnes en situation de handicap, parce que c'est vrai qu'il y a des niveaux très différents. Et on a aussi du basket fauteuil, donc là on sort sur des secteurs plus extérieurs à Villefranche, on est obligé d'aller sur Lyon ou sur Feur pour faire ce type de sport avec effectivement du basket fauteuil. Au niveau de la sclérose en plaques, on a uniquement deux adhérents qui sont effectivement atteints par la sclérose en plaques. On a des gens qui sont atteints de Parkinson aussi. Hein, donc l'association Parkinson effectivement nous a sollicité l'année dernière pour aussi pouvoir profiter des activités physiques, de loisirs qu'on pouvait offrir au niveau de l'association. C'est important, et puis ça permet de se faire connaître aussi, parce que ça fait 52 ans que l'association existe sur Villefranche, mais malgré tout il y a encore des gens qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent par hasard, aussi de faire connaître la maladie, de faire connaître qu'effectivement, même atteint d'un handicap, quel qu'il soit, on peut faire du sport.
Philippe Lambert nous dit n'avoir pas voulu faire de la sclérose en plaques une fragilité. Le sport apporte un vrai plus pour cette maladie.
Alors, je suis Philippe Lambert, donc 58 ans, et j'ai la sclérose en plaques depuis une quinzaine d'années. Oui, voilà, c'est une maladie qui... Alors, c'est la première cause de handicap en France hors accident de la route, et pour autant, c'est une maladie qui est quand même assez méconnue. Donc l'idée, c'est de la faire connaître au maximum et aussi de promouvoir l'activité physique dans les maladies neurologiques. Alors moi, je faisais du foot, mais vraiment au niveau amateur, quoi. Hein. J'étais pas un véritable sportif. Des Hauts-de-France. Donc on est parti du centre de rééducation de Fouquier-les-Lens, qui fait partie du groupe de la Fondation PAL. Hein. Donc c'est là où on me prépare physiquement et où on prend soin des personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques ou d'autres maladies neurologiques. Et on est parti donc jeudi matin à 9h et on a enchaîné les étapes jusqu'à aujourd'hui, et on va continuer après jusqu'à Marseille. Il y a eu Saint-Quentin, Château-Thierry, Troyes, Montbert, Chalon-sur-Saône et Villefranche-sur-Saône, et après on continue donc Roussillon, Montélimar, Avignon, Aix-en-Provence, et on finit donc à l'Orange Vélodrome où on va être reçu pour regarder le match OM Lens.
Alors c'est un défi cycliste, hein ?
Oui, bon, on s'était mis d'accord pour faire les 10 derniers kilomètres, enfin il y a eu un peu plus, 17 km exactement. À ma grande surprise, j'ai vu tous des jeunes arriver. C'est merveilleux que des jeunes comme ça se sensibilisent sur des maladies, etc. Donc c'est super, quoi. Donc je remercie bien le club de Villefranche.
Vous avez dit que le sport est essentiel, effectivement, en tous les cas pour vous. C'est un bon accompagnement, en quelque sorte, pour votre bon moral.
Quand on est sur le vélo, forcément, on fait attention un petit peu à tout ce qui se passe à droite, les voitures, etc. Et forcément, on n'est plus dans la maladie. On est concentré sur autre chose. Là, j'ai longé comment la Saône, les paysages sont tellement merveilleux que on est attiré partout, et puis la maladie, on la zappe un moment, quoi.
Ceci dit, vous avez un accompagnement médical très suivi. Hein,
Oui. Oui, alors au niveau de l'accompagnement médical, donc il y a eu tout d'abord, forcément une visite médicale avant de prendre la route, avec électrocardiogramme, etc. Et j'ai un suivi chaque jour avec mon neurologue et le centre de rééducation pour voir si tout se passe bien et anticiper si des signes apparaissent ou quoi que ce soit. Alors, c'est une maladie déjà donc neurodégénérative, c'est une maladie auto-immune, c'est une maladie aux multiples symptômes. On peut les énumérer, mais il y en a... C'est une maladie qui a beaucoup de signes aussi également invisibles, cognitifs. Ça peut être une perte de mémoire, de l'attention, de la concentration. C'est une maladie qui touche à l'humeur, qui est douloureuse. Voilà. Donc après, pour faire des défis, il faut déjà avoir fait, entre guillemets, le deuil de la maladie, quoi. Sinon, c'est pas possible. Donc je vous remercie pour cette interview et je remercie particulièrement donc, la ville de Villefranche, les élus et toutes les personnes qui étaient présentes cet après-midi pour me recevoir. On a été accueillis comme des princes avec les petits jeunes qui nous disent au revoir. Et puis, donc un grand merci à la ville de Villefranche. Et puis peut-être un jour j'en passerai par ici.
En météorologie, le printemps couvre les mois de mars, avril et mai. Les chaleurs estivales ont tendance à se produire plus tôt dans l'année, plus fréquemment, tandis que les périodes de gel se raréfient. La transition entre la saison froide et les chaleurs estivales est progressive et plus ou moins précoce selon les années. Les journées froides et parfois humides se raréfient au fil de la saison et alternent avec des jours de plus en plus doux, parfois orageux ou très ensoleillés au gré de la position des anticyclones et des dépressions. Soumises à des masses d'air d'origine polaire encore froid ou à des masses d'air chaud d'origine subtropicale, la France peut connaître de brusques changement de température. Ainsi, suite à une descente d'air polaire sur le pays, on peut commencer la journée avec des gelées matinales parfois fortes, puis connaître une chaleur quasi estivale l'après-midi, à la faveur d'un ensoleillement de plus en plus puissant et durable. En moyenne, sur l'Hexagone, la température normale de la saison météorologique est de 12,1 degrés Celsius. Fin mars 2021, la France a connu une douceur exceptionnelle. Le 31 mars fut même la journée la plus chaude jamais mesurée en mars, avec parfois plus de 25 degrés Celsius au nord de la France et plus de 30 degrés Celsius au sud. Mais quelques jours plus tard, c'est le froid qui se fit remarquable. Tout début avril, des gelées quasi généralisées tombaient sur les deux tiers nord de la France, affectant particulièrement les régions du bassin parisien au Val-de-Saône, avec des valeurs parfois proches de moins 5 degrés Celsius. La nuit du 7 avril 2021 fut ainsi une des plus froides en avril depuis 1945. Les végétaux, les vignes et les arbres fruitiers, particulièrement poussés à la floraison précoce par la chaleur de mars, subirent des dommages parfois irréversibles. L'évolution des températures moyennes printanières en France métropolitaine depuis 1900 montre un réchauffement. Sur la période 1959-2014, la tendance observée est de l'ordre de plus de 0,3 degrés Celsius par décennie. Elle est particulièrement marquée à partir des années 80. Si on considère les températures maximales, la tendance observée est même de plus 0,4 degrés Celsius par décennie. Les chaleurs estivales ont tendance à se produire plus tôt dans l'année, plus fréquemment, tandis que les périodes de gel se raréfient. Cette tendance va se poursuivre dans le futur, avec des vagues de chaleur qui pourraient même débuter au printemps, à la fin du siècle. Le risque de gel ne disparaîtra pas. Les gelées printanières risqueront de se produire plus tôt dans la saison. Ainsi, avec les hivers plus doux, la saison de croissance de la végétation sera avancée, ce qui rendra les cultures vulnérables à de basses températures au printemps. La conjonction d'un printemps précoce suivi d'un épisode de gel accentue le danger pour les cultures. La douceur printanière favorise le bourgeonnement de la végétation. Les cultures sont alors particulièrement sensibles au gel, en particulier les arbres fruitiers et la vigne, qui peuvent subir des pertes conséquentes. Les épisodes de gel tardif d'avril 2021 ont occasionné des dégâts matériels importants en France, estimés à au moins 2 milliards d'euros de pertes selon la FNSEA. 80% de la production fruitière, viticole ou céréalière a été détruite sur certaines exploitations nécessitant l'activation du dispositif des calamités agricoles par l'État. Il y a urgence.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.